3 heures de film et un livre sur Lionel Jospin. La dernière séance. Depuis quelques jours, Lionel Jospin fait le tour des médias pour présenter un livre et un film en deux parties de 90 minutes réalisé avec Patrick Hotman et dont la diffusion est prévue sur France 2 les 14 et 21 janvier. 7 ans et demi après sa seconde défaite à l'élection présidentielle, Jospin étale son autosatisfaction. Il aimerait que, entre guillemets, son récit personnel soit, entre guillemets, utile à tous ceux qui, à gauche, veulent retrouver le chemin du pouvoir. C'est pourtant bien lui qui l'a perdu en 2002, mais il continue à attribuer les raisons de cet échec à, entre guillemets, une sous-estimation de son adversaire Chirac et au fait que, entre guillemets, la gauche était divisée au premier tour. Et il estime toujours que son bilan de Premier ministre entre 1997 et 2002 était bon. Dans Le Monde, du 8 janvier, il déclare, ouvrez les guillemets, « défier quiconque de trouver une mesure de mon gouvernement contraire à l'intérêt des milieux populaires ou simplement qui leur est nuit », fermez les guillemets. S'il n'ignore pas que, ouvrez les guillemets, « les partis de gauche percevaient une certaine déception dans ces milieux », fermez les guillemets, il se refuse à en chercher la cause. Tous ceux qui ont pu l'interviewer ces jours-ci se sont bien gardés de lui demander comment il expliquait qu'avec un bilan si formidable, son gouvernement ait pu perdre 4 100 000 voix populaires par rapport à 1997. Il faut croire que pour les classes populaires, le bilan n'était pas si bon. Comme bien d'autres, depuis le crash de 2008, Jospin se présente comme un partisan, entre guillemets, d'une réduction et d'une mise sous contrôle de la sphère financière et de la spéculation, d'une régulation raisonnable de la vie économique, d'une intervention raisonnée des États dans la sphère économique. Oubliant apparemment que, quand il était Premier ministre, il fut l'architecte d'une vague de privatisation supérieure à ce que la droite avait pu mener avant lui. Il fut aussi celui qui expliqua aux travailleurs de Renault Villevorde, de Michelin et à bien d'autres que, entre guillemets, l'État ne peut pas tout. En clair, qu'ils se débrouillent avec leur patron sans compter sur la gauche au gouvernement. Et s'il continue de défendre la loi des 35 heures, qu'il présente comme ayant créé des emplois, Jospin oublie de rappeler que, loin d'y perdre, le patronat y gagna une plus grande flexibilité des salariés, bien souvent des accords de modération salariale et toujours une diminution des cotisations sociales. Non, du point de vue des classes populaires, le bilan n'était pas bon, et c'est ce qui explique cette hémorragie de voix qu'aucun dirigeant socialiste n'a anticipée et qui a conduit à la réélection de Chirac en 2002. Jospin reste aussi bien silencieux sur ce vote Chirac auquel la gauche a appelé au deuxième tour contre Le Pen. À l'époque, il n'avait pas été pressé d'ajouter son nom à celui des dirigeants socialistes qui, pour masquer la défaite et surtout éviter qu'on s'interroge sur ses causes, avaient appelé l'électorat de gauche à voter Chirac, alors que les seules voix de la droite suffisaient largement pour battre Le Pen. Mais il l'avait fait quand même. En apprenant ainsi aux électeurs de gauche à voter pour un homme de droite, le Parti socialiste a cautionné Chirac et pris la responsabilité de faire qu'une partie de ses électeurs ne voit plus de différence entre voter pour la droite et voter pour la gauche. Il l'a payé par le fait qu'une partie des électeurs du PS ont pu voter pour Bayrou à la présidentielle de 2007, oblitérant ainsi les chances de ce parti d'écarter Sarkozy. Quant à ce que le Jospin d'aujourd'hui, si d'aventure il revenait aux affaires, aurait à offrir aux classes populaires, c'est peu de choses. Un, entre guillemets, partage des revenus moins défavorables aux salariés. C'est tout au plus une formule de politesse en direction de ceux qui constituent le cœur de l'électorat du Parti socialiste, ceux-là même dont il a piétiné les intérêts quand il était aux affaires. Après tout, n'est-ce pas Pierre Mauroy, ex-premier ministre socialiste et ex-maire socialiste de Lille, qui avait remarqué pendant le premier tour de 2002 que Jospin n'avait rien à dire à la classe ouvrière ? C'est toujours le cas. Jacques Fontenoy.